François-Olivier Gisbert est en ligne avec nous à présent. Bonsoir François-Olivier, merci d'être l'invité du Radio Shalom.
Bonsoir Bernard.
J'aurais profité de votre expertise sur les derniers déclarations des responsables de la France Insoumise, parce que j'ai du mal à comprendre. On a d'abord, je crois pas que ça soit un dérapage, c'est un très long entretien de Jean-Luc Mélenchon qui pense que la langue française devrait ne plus être la langue française. C'est un entretien qu'il a eu d'abord devant une commission de l'Assemblée nationale, après on le revoit dans une conversation qu'il a avec un journaliste. Il pense qu'on ne devrait plus appeler la langue française le français, parce que ça appartient pas qu'aux Français. Bon, je suis pas sûr que c'est comme ça qu'on gagne les élections, mais bon, voilà, il dit ça. On a Mathilde Panot dimanche dernier qui dit oui, quand on sera élu, on supprimera les vidéosurveillances et on désarmera la police municipale. Et elle est là ma question. Est-ce que, vous savez, en politique, des fois, c'est juste la faute à pas de chance, les déclarations tombent au même moment et puis il n'y a pas forcément de stratégie. Ou est-ce qu'il y a une stratégie? Parce que pour moi, parler comme ça, c'est se fermer définitivement la porte de l'Élysée. On ne peut pas dire aux Français, vous êtes plus Français, on vous protégera plus avec les moyens nécessaires. Et est-ce que d'après vous, ils se lâchent, ils n'ont pas de chance, ou il y a quelque chose que je ne comprends pas?
Moi, je ne prendrai pas les choses de haut comme vous, parce que l'histoire a montré qu'en tout cas, Jean-Luc Mélenchon, je ne dirais pas forcément ça de tous les responsables de la France Insoumise, mais Jean-Luc Mélenchon est un très bon stratège. Et je pense que ce qu'il fait là, on voit bien, il joue de toute façon plusieurs tableaux à la fois depuis un certain temps. Bon, il y a la carte parlementaire, qui joue avec un groupe qui est quand même assez puissant aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, il y a la carte du chaos, c'est-à-dire depuis longtemps, et ça c'est pas nouveau, quand son parti avait porté un autre nom, déjà il avait ce type de langage, c'est-à-dire que voilà, il attend toujours le grand soir, la révolution, et bon. Je pense qu'il a conscience, contrairement peut-être à beaucoup de Français, que la situation est dangereuse, qu'on n'est pas à l'abri d'une crise financière à cause de la gestion absolument calamiteuse d'Emmanuel Macron. Les 8 dernières années, c'était une catastrophe. On est déjà à 14... il a endetté la France de 1400 milliards. Nous sommes donc à 3400 milliards maintenant d'endettement, et puis c'est pas fini. On est dans une situation dangereuse. Les agences de notation, jusqu'à présent, ne nous ont pas montré du doigt, parce que je pense qu'elles font preuve, comme elles l'avaient fait avec les États-Unis lors de l'affaire des subprimes, d'une certaine complaisance. Elles n'ont pas envie de problème. Donc, si vous voulez, il y aura une crise, mais contrairement à ce que croient beaucoup de Français, je pense qu'elle n'aura pas lieu forcément par les agences de notation. Elle peut arriver à un moment donné, parce que un fonds quelconque sera dit, tiens, je vais acheter à la baisse. Ce qu'avait fait, d'ailleurs, vous vous souvenez, George Soros contre la Grèce, en 2012, vous vous souvenez sans doute de cette histoire. Donc, je pense que il joue les deux tableaux. Il joue les deux tableaux. Il joue la carte de le côté responsable. Tous ces élus portent l'écharpe tricolore. Et puis de l'autre côté, bon, il y a cette espèce de forme de démagogie, mais vous savez, qui plaît d'abord aux petits bourgeois. Qui plaît certainement à une partie de ceux qu'il appelle les quartiers populaires, mais ça plaît aussi aux petits bourgeois. Vous savez, dans un livre de François Furet absolument génial, vous avez un grand passage sur le bourgeois français qui est dans la haine de soi. Et c'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ça explique aussi les résultats des élections. Ce ne sont pas les ouvriers aujourd'hui, c'est pas la gauche qui vote LFI, c'est le bourgeois, le fils de bourgeois qui se hait, qui voilà. Et puis, évidemment, les islamistes, pour ne pas dire les musulmans, mais je dirais plutôt les islamistes, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui n'ont rien à voir avec tout ça. Donc, je ne vois pas ça du tout comme un dérapage. Moi, je vois ça comme, il est dans la déstabilisation. De toute façon, on va vivre des heures difficiles dans les années qui viennent. Et il ne faut pas s'imaginer que, les choses viendront, les choses s'arrangeront facilement. Je pense que là, justement, ils sèment des graines pour accélérer le processus. Je pense qu'on est dans un, vous voyez très bien, enfin, c'est un affaissement qui ne cesse de... il y a ce qu'on appelle le bloc central aujourd'hui qui essaye de gouverner à l'Assemblée nationale. C'est quand même très compliqué, il n'a pas de majorité, il ne peut pas faire passer de décision, enfin très peu. Et puis il y a à régler déjà, ne serait-ce que le problème des 40 milliards à trouver, forcément en baisse des dépenses, je ne sais pas ce que le gouvernement réussira à trouver comme solution, mais il augmente les impôts un tant soit peu, quand on connaît le niveau de la taxation en France, enfin, ce serait totalement du délire. Enfin, là, il risque une espèce de révolte antifiscale comme il y a eu en France sous la gauche dans les années 80.
Alors, je ne sais même pas s'il faudrait poser la question, puisque vous évoquez vous-même de la haute stratégie, mais quand même une deuxième question. Lorsque Aymeric Caron fait des tweets pour se plaindre qu'un journaliste de RTL interviewe un chercheur qui n'a pas la même position que lui sur la question israélienne, puisqu'il s'agit de Frédéric Ancel, et dit il faudrait virer et le journaliste et interdire aux chercheurs de parler, c'est pas la même catégorie. Aymeric Caron, il a
son... Non, je dirais ça, hein, c'est pas du tout dans la même histoire. C'est-à-dire que vous avez d'un côté... moi je répète, c'est la stratégie politique. Et évidemment, ça fait peur. Je veux dire, quand je vous dis ça, je dis pas que c'est génial. Je dis simplement, c'est... Ils sèment des graines pour créer le désordre. C'est ça qu'il a dans la tête. Et puis de l'autre côté, il saura aussi, le jour venu, montrer qu'il est capable de gouverner, d'ouvrir ses bras, par exemple, à Dominique de Villepin, avec lequel il fera vraisemblablement alliance le jour venu. Enfin, si c'est pas tout ça, n'est pas déjà décidé et acté entre eux. Donc, c'est une stratégie, il joue toutes les cartes en même temps. Il joue législative et il joue aussi le désordre. Voilà. C'est aussi bête que ça. Et quand, évidemment, l'histoire d'Aymeric Caron, bon, le pauvre Aymeric Caron, qui est élu à Paris et qui vit à Versailles, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un naufrage, quoi. C'est pas du tout, on n'est pas du tout dans la même histoire.
C'est pas ce niveau-là.
Ça fait de la peine. Mais, ça montre aussi que cette gauche, enfin, l'extrême gauche, parce que cette extrême gauche aujourd'hui, elle n'a plus peur de rien. Et c'est vrai que cette espèce de crise d'hystérie d'Aymeric Caron sur un journaliste de RTL,
enfin, c'est complètement
mais c'est complètement insensé, quoi. C'est comique, enfin là c'est de la pure bêtise, il faut dire les choses, c'est débile. Mais ça me rappelle aussi, excusez-moi, Yann Brossat, l'adjoint communiste à la mairie de Paris, qui est un grand penseur, comme chacun sait, bon, qui n'a certes pas inventé l'eau chaude, mais quand il dit qu'il faut interdire le Figaro Magazine parce qu'il a osé faire un classement des pays où il y a moins d'impôts, ça montre qu'il y a une partie de l'extrême gauche, de la gauche, qui dévisse complètement, mais parce que, je vous dis, aujourd'hui, la situation est... ils sentent bien, il y a un air de poudre dans le pays aujourd'hui. On ne va pas se raconter d'histoire, c'est vrai, il y a un air de poudre. Enfin, il suffit d'écouter les Français parler, dans la rue, partout. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Et c'est sûr que, dans ce climat-là, Mélenchon, lui, allume des braises, tandis que les figurants, pour parler d'Aymeric Caron et Yann Brossat, disent des bêtises, mais d'une certaine manière, ils participent à la stratégie générale.
Alors, je me permets de vous interrompre.
Je ne suis pas sûr que ce soit pensé.
Et alors, pas sûr, mais je crois aussi, vous qui êtes un intellectuel, que c'est aussi dans la tradition, y compris Sartre, par exemple, dans la tradition de l'extrême gauche de vouloir couper des têtes, interdire, faire taire, imposer, c'est pas aussi nouveau que ça. Donc, c'est-à-dire, comme vous le dites,
non,
il n'est pas très malin, Aymeric Caron.
Ça, je suis d'accord, mais simplement, d'habitude, Aymeric Caron ou Yann Brossat, parce qu'il faut les mettre dans le même sac, c'est pas malin, c'est très bête, mais ça. c'est dans une tradition. Simplement, c'est nouveau aujourd'hui. Moi, pour moi, c'est nouveau aujourd'hui qu'on ose dire ça. Ouais. Mais dans d'autres périodes de l'histoire, on l'a dit, c'est-à-dire, vous avez raison, l'extrême-gauche, il y a une tradition de la terreur, de tout ce qu'on appelle d'ailleurs le terrorisme intellectuel. Il y a des grands journaux qui font ça, par exemple, je sais pas, un grand journal comme Le Monde, je veux dire, il cherche la purge, il donne des cibles régulièrement, enfin, c'est une stratégie de... C'est l'extrême-gauche a toujours un peu fonctionné comme ça. Et vous regardez déjà sous les grands discours que beaucoup de gens adorent, vous savez, dans une partie de la gauche adore les discours de Robespierre. Robespierre, il désigne des têtes à couper, comme ça, dans ses discours. Mais je ne sais pas s'ils ont parfois lu leur discours. Moi, je l'ai fait. C'est quand même effrayant, quoi. Et ça, il y a ça, c'est sûr, aujourd'hui dans le pays. Mais si vous voulez, c'est un petit moment, c'est un mouvement, comment dire, marginal, à côté du grand mouvement général, d'angoisse, d'inquiétude. Le fait que une partie des Français, à un moment donné, enfin, je veux dire, si on arrive à une des hausses des taux d'intérêt, etc., ne saura pas où aller ou donner de la tête. Et je pense que c'est ça qu'il y a dans la tête des dirigeants de LFI, si vous voulez mon avis.
Alors, oui. Et ma dernière question, est-ce que ça marche ou est-ce ou c'est suicidaire?
Moi, j'espère de tout cœur que ça ne marchera pas. Mais, disons, contrairement à ce que vous disiez au début, moi, je ne suis pas sûr que ce soit totalement suicidaire. Mais... Vous savez, le démarrage de la campagne de Mélenchon contre, de Mélenchon des responsables LFI, en général, ils étaient tous sur la même ligne, en faveur du Hamas, par exemple, après les événements du 7 octobre 2023. Bon, moi, personnellement, j'ai pensé, à un moment donné, c'était une erreur, ça ne marchait pas, que ça lui coûterait cher. Ça a marché, et il n'a pas perdu absolument aucune plume. Et il est toujours sur un socle très solide de 15% d'intention de vote pour la prochaine présidentielle. Parfois, c'est 14%, mais de toute façon, moi, j'ai entendu dans la bouche de Mitterrand, comme dans celle de Chirac, quand on a 15%, on peut être élu. On peut être élu. Enfin, il faut d'ailleurs regarder, Chirac a été élu d'ailleurs brillamment en 2002 avec 19% des voix au premier tour. Hein. C'est quand même où c'était en 1995, d'ailleurs je me souviens plus. Mais enfin bon, il a été élu à plusieurs fois, deux fois de suite quand même, président de la République, sans jamais franchir le cap des 20%. Et donc, ça veut dire de 20% au premier tour. Parce que Mélenchon, là aujourd'hui, il est dans une stratégie de premier tour. Et il est, si vous voulez, le problème, je n'ai pas porté un jugement moral ni politique. Moi, évidemment, je trouve ça affligeant, je trouve ça effrayant, je trouve ça faux, évidemment, absurde d'expliquer que la langue française n'existe plus. Ça veut dire maintenant, la prochaine étape, ce sera la France n'existe plus.
Bien sûr.
C'est évident, c'est fini. La France, c'est fini d'ailleurs. Et puis il faudra raser les grands monuments. Et puis qu'est-ce que ça fait tout ça?
On va tout changer.
Ah non, mais je sais, mais c'est atroce. C'est bien entendu, c'est atroce. Mais ça, j'ai pas dit que c'était bien à aucun moment. Je dis simplement, je pense pas que ça repose, hélas, je pense pas que ça repose sur de la folie. Et voilà, je pense que c'est une erreur des adversaires de Mélenchon. C'est une erreur de penser qu'il est fou. Mélenchon est quelqu'un de très, comment dire, il a ses colères, il a ses absences ou tout ce que vous voulez, mais il sait où il va.
Il sait faire de la politique, surtout, c'est ça le drame pour ses adversaires. Il sait faire de la politique, et d'ailleurs, en vous écoutant, je me suis souvenu je sentais que j'avais fait une petite erreur au début. Donc en fait, Mélenchon s'exprime devant une commission de l'Assemblée nationale et il dit, d'ailleurs le français, il ne faudrait plus l'appeler le français, il faudrait trouver un autre mot. Donc ça, c'est devant l'Assemblée nationale. Et je me souviens maintenant que l'entretien que j'évoquais, c'est dans celui-ci qu'il avait dit « Je me suis trompé. Le voile dans l'islam, c'est pour obéir à Dieu, contrairement au voile dans la chrétienté où c'est obéir aux hommes. » Et là je me suis dit mais qu'est-ce qu'il raconte ?
C'est dingue. Mais c'est... oui, je répète toujours, mais faut bien voir, tout ça, c'est une stratégie de déconstruction, on jette des braises, c'est ça l'idée. C'est depuis sur un terrain qui risque d'être enflammé d'ici peu parce que la France a été gérée en dépit du bon sens par Emmanuel Macron depuis 2017. Et il sait qu'une crise économique peut arriver à tout moment, et les crises économiques ou les crises financières, on l'a vu d'ailleurs en Allemagne, dans l'Allemagne nazie dans les années 30, les citoyens à un moment donné peuvent devenir fous.
Bien, François-Olivier Jusberg, justement, pour prendre un peu de recul, je renverrai les auditeurs vers votre très belle histoire de la Ve République, parce qu'il y a le quatrième tome qui va sortir à la rentrée, en octobre, si je ne me trompe pas, aux éditions.
Oui, absolument. Absolument.
Donc, ça sera l'occasion de prendre un peu de champ, justement, pour essayer de comprendre et d'affronter les jours difficiles qui, visiblement, nous sont promis. François-Olivier Gisbert, je vous remercie d'avoir été là.
Merci à vous, Bernard, merci. Bonsoir. Au revoir, merci, au revoir.